Ceci étant, le Parlement européen, enfin le Conseil économique du Parlement européen m'a demandé de venir participer à une journée de réflexion sur les marchés. Je me suis dit, je vais pas me priver. Hein. J'étais chargé de parler de la question éthique des marchés. On m'avait fait intervenir à la fin de la journée, après la pause café. Et donc, je les ai un peu réveillés en leur disant que, pas pour des raisons égocentriques ou mégalomaniaques, mais que je pense que j'aurais dû intervenir en premier à la journée. Car les marchés financiers sont fondés sur l'éthique. Toute société est fondée sur l'éthique. Donc, qu'est-ce que nous voulons vivre ensemble? C'est la première question à se poser. Voilà. Si vous voulez passer une soirée en famille, vous allez dire bon bah quel jeu de cartes on va jouer ensemble. Vous n'allez pas commencer à jouer et puis à la fin de la partie dire bah là on jouait au poker menteur. Voilà. Ah bon bah moi je croyais que c'était bon. Voilà. Donc il faut se mettre d'accord sur ce qu'on cherche à faire ensemble et quelles sont les règles. Donc dans la panique boursière, il n'y a pas de réponse immédiate. Alors moi j'ai eu des traders, d'abord j'ai gardé des amis dans ce milieu-là, bon, qui sont des relations d'amitié, mais j'ai aussi des personnes de fait, vous avez tout à fait raison, qui m'ont contacté. Alors ça allait du trader qui me dit je vais me suicider, répondez vite à mon mail, donc dans ces cas-là on répond vite, mais c'est pas pour lui expliquer quelle réforme on va faire pour s'en sortir, c'est lui personnellement. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, donc il y a quand même quelques traders qui ont payé, mais je constate que dans l'ensemble, c'est pas les gros bonnets qui ont payé, au contraire. Eux, de toute façon, ils ont 5, 6, 10, 15 maisons, et ça n'a rien changé pour eux, sauf des cas d'escroquerie majeure comme certaines qu'on connaît. Bernard Madoff, entre autres. Moi j'ai pas de, enfin ma conviction profonde, si vous voulez, c'est que cette crise financière ne sera pas déjouée simplement par une réponse financière. Pourquoi ? D'abord parce que une crise, c'est une crise de surendettement. Cette crise de surendettement a été traitée par davantage d'endettement. Donc pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre que si vous soignez le mal par le mal, vous créez toutes les conditions pour qu'il y ait une nouvelle explosion. Donc, on a fait ça pourquoi ? Parce qu'on voulait éviter ce qu'on appelle une crise de liquidité, c'est-à-dire on voulait que la monnaie continue à circuler, qu'il n'y ait pas une panique générale où les gens vont chercher l'argent à la banque et donc ça bloque tout le système. De ce point de vue-là, on s'en est tiré. Mais en même temps, comme je l'ai souligné un peu tout à l'heure, on est venu au secours des banques. Donc on a laissé les petites banques faire faillite, il y a eu une augmentation de la concentration bancaire. C'est déjà une tendance lourde avant même la crise, c'est-à-dire que pour les banques américaines, il y a 10 ans, elles détenaient à peu près 10% des actifs financiers aux États-Unis, et aujourd'hui les grandes banques américaines détiennent 60% des actifs financiers aux États-Unis. Donc elles ont de plus en plus de pouvoir. Voilà. Aux États-Unis, une grosse banque d'affaires comme Goldman Sachs, mais pratiquement systématiquement l'un des siens, comme responsable de l'économie américaine, dans le gouvernement américain, qui est celui qui a le plus de poids encore aujourd'hui dans le monde. Donc il ne faut pas se faire d'illusions sur on va mettre des règles, etc. Les paradis fiscaux, qui sont forcément la base arrière de tout ça, parce que vous pouvez mettre toutes les règles que vous voulez, mais s'il y a des paradis fiscaux, les gens iront mettre leurs opérations financières dans les paradis fiscaux. Ben, aux dernières négociations, ce sont les je suis américain moi-même et je vote aux États-Unis, donc je fais pas de l'anti-américanisme primaire, mais il faut se regarder tel qu'on est. Ben, ce sont les Américains eux-mêmes qui, dans ces négociations, ont fini par dire aux Chinois, bon, on va vous mettre une liste de paradis fiscaux, mais surtout pas ceux que vous utilisez vous, quoi. Voilà. Donc on va aller chasser les paradis fiscaux dans je ne sais quel pays pauvre, où il n'y a pas beaucoup de choses à ramasser. Et pendant ce temps-là, on va aller faire la guerre aux internautes qui, à 18 ans, téléchargent de la musique sur Internet. Mais c'est ridicule par rapport au problème posé. Il faudrait y avoir le sens des priorités. Et là, on voit bien que, pour ne prendre que ces quelques exemples, parce qu'il y a des questions encore un peu plus complexes que ça, que les réponses ne sont possibles aujourd'hui qu'à l'échelle internationale. Et qu'en fait, c'est pas une réponse financière, mais c'est une réponse... quels sont les contre-pouvoirs de la société mondiale ? Ce qu'on a réussi à faire aux États-Unis dans les années 50, ce qu'on a réussi à faire ici en France, c'est-à-dire une économie mixte, puisqu'en fait, il y a une part importante de l'État, il y a des associations, il y a des églises, etc. Il y a tout un système de contre-pouvoir. Il faut arriver à le réussir à l'échelle mondiale. sans quoi il n'y a pas de réforme financière possible. Donc la première question, c'est l'éducation. Est-ce que les gens trouvent normal que, par exemple, les plus riches... Moi, j'ai rien contre les riches, hein. Je viens d'une famille aisée, j'ai un mes-oncles qui est une des grandes fortunes de New York, bon, très bien. Mais ce qui me dérange, si vous voulez, c'est que même dans un pays comme la France aujourd'hui, les plus riches, avec des niches fiscales, ne payent pas d'impôts. Alors moi je dis des niches pour les riches et une vie de chien pour les pauvres, ça me dérange. Ces questions-là ne peuvent être traitées que si l'ensemble de la population mondiale est d'accord pour dire mais nous voulons bien de la mondialisation, mais on ne peut pas avoir plus d'un milliard de personnes au monde qui manquent du nécessaire en progression de 11% pendant que sur nos télévisions et nos radios, on nous dit « il y a une reprise technique ». Mais laissez-moi rigoler, une reprise technique pour qui? Pour ceux qui ont réussi à garder un travail et pour ceux qui ne sont pas là à se demander comment ils vont manger demain. Voilà, donc il ne faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles. Ce qui est le plus grave, c'est que dans les pays les plus riches, depuis les années 80, on n'a pas arrêté de s'endetter. On peut s'endetter pour des bonnes raisons, mais on s'est endetté au-delà de toute raison. Là aussi, il n'y a pas besoin de faire polytechnique pour comprendre que si les pays les plus riches s'endettent aux pays de plus pauvres qu'eux, par exemple les Américains vendent leurs bons du trésor aux Chinois, il y a un problème. Normalement, c'est quand même les riches qui devraient faire des contributions pour les plus démunis. Alors, il y a des tas de gens qui le font. Il y a Bill Gates qui fait des programmes énormes pour la polio, etc. Mais je crois qu'on est vraiment... On a sombré dans un néo-féodalisme dans lequel les États sont exsangues financièrement, sont jaloux de leurs prérogatives et donc sont incapables de se mettre d'accord ensemble. Et il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc je pense que c'est une prise de conscience par l'éducation, et deux, suite à ce travail d'éducation et de prise de conscience, se dire, voilà, quel est le monde qu'on veut construire, et on se donne les instruments pour le construire. Donc il faut progressivement bâtir ce qu'on appelle une gouvernance mondiale. Alors une fois qu'on a dit ça, on se dit, bah mon Dieu, moi j'y peux rien. Il y a une part de responsabilité personnelle, une part de responsabilité qui est politique avec un grand P, et moi je suis convaincu qu'arrivé à un certain point, parce que les événements vont nous y obliger, on va être obligé d'accoucher de ces institutions et de ces règles qui nous permettent de vivre dans un monde qui ait du sens et qui soit juste. Voilà. Alors, il y a des gens qui vous disent « oui, mais tout ça, c'est gentil, etc. » Non, non, mais l'éthique et la spiritualité, c'est un réalisme. Moi, je ne parle pas de choses dont on rêve. On nous a expliqué pendant 30 ans que la cupidité, l'amour de l'argent... moi tout seul, crève le monde, ben ça c'est le meilleur système de développement au monde, ben c'est pas vrai. Et si les gens n'ont pas compris avec cette crise-là, ils comprendront à la suivante, parce que les marges de manœuvre, elles sont pratiquement réduites à zéro maintenant, et c'est certainement pas avec les déficits budgétaires américains, européens et l'endettement colossal dans lequel on s'est mis, qu'on va pouvoir régler les choses. Il faut regarder la réalité en face, justement, et la réalité nous obligeant à faire ces choix. Il serait triste d'arriver au dépôt de bilan, voilà. Bon, cela dit, les Français, les Allemands se sont battus pour des histoires de frontières trois fois de Suisse en 70 ans. Il y a des gens qui disaient « on n'en sortira jamais » et on a réussi à construire la communauté économique du charbon et de l'acier. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des hommes politiques chrétiens comme Schuman, de Gasperi, etc., qui, pour eux, la réconciliation, c'était pas du pipeau, c'était une spiritualité enracinée dans l'Évangile. Ils l'ont fait. Des gens comme Gandhi, qui lisait l'Évangile et qui vivait une vraie spiritualité, a été capable de mettre à bas l'Empire britannique, qui était la grande puissance du moment. Martin Luther King, qui se battait contre la ségrégation, il y a un président aux États-Unis qui est métisse 40 ans plus tard. Donc il faut pas céder au pessimisme. L'espérance, c'est une vertu théologale. C'est le seul intérêt de l'existence, c'est de transformer le monde. Sinon... Il n'y a qu'à regarder sa télévision et puis se fumer un joint et puis vivre tristement dans son petit coin. Voilà. Mais bon, moi, ça m'ennuie profondément, ce monde-là. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et je crois qu'il faut arrêter de dire l'homme ne pense qu'à lui. Non, les êtres humains sont capables d'une grande générosité et fraternité. J'ai appris ça dans mon quartier. Dans les beaux quartiers, j'ai jamais vu quelqu'un qui venait m'offrir une soupe le soir après une journée de trading. Ça, c'est ce que font mes voisins. Voilà. Donc, il y a de l'espoir.
Vous avez des questions ? parmi la population dans laquelle vous êtes, qui est surtout musulmane, si j'ai bien compris, est-ce que vous avez allusion à quelques conversions? Est-ce que c'est relativement fréquent? Est-ce que c'est caché? Est-ce que c'est répandu?
Si vous voulez, moi je ne suis pas dans une position pour tenir des statistiques, mais enfin il y en a, mais je crois que c'est. Il y a plusieurs centaines de conversions de musulmans devenant chrétiens en France chaque année. Dans beaucoup de cas, elle est discrète, voire totalement cachée. Moi j'ai des amis qui sont chrétiens, personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Dimanche dernier, je suis allé à Toulon, j'étais invité par une association qui s'appelle les Amis des Deux Rives. J'ai écouté avec énormément d'émotion les témoignages de ces musulmans devenus chrétiens. Bon, certains d'entre eux donc, le vivent surtout à travers ces groupes. Si vous voulez, moi, je suis attentif aux chiffres, mais je ne suis pas du tout, professionnellement, je ne suis pas du tout ni sociologue, ni même, je ne suis pas prêtre, donc j'ai jamais à rendre compte à mon évêque du fait est-ce que ma pastorale fonctionne ou pas. Mais je constate de fait que je connais un certain nombre de gens devenus chrétiens. Ça pose des problèmes parce que dans toute famille, quand quelqu'un choisit une voie différente, ça pose problème. Et puis si vous êtes dans une tradition religieuse qui traditionnellement considère que sortir de sa religion, c'est un grave péché qui peut entraîner un certain nombre de conséquences, c'est encore plus difficile. Voilà. Donc personnellement, je connais surtout l'Algérie et puis donc la ville de Marseille. Je pense qu'il y a un vrai phénomène aujourd'hui, très important, à la fois d'évolution des mentalités. Il y a une grande crispation dans certains courants musulmans qui sont contraires, qui rejettent catégoriquement la possibilité de la conversion. Et puis en même temps, il y a un mouvement d'une partie de la population qui va vers, au contraire, le fait que voilà, c'est quand même important, cette liberté de conscience, c'est un choix. Et à l'intérieur de ces personnes-là, donc des personnes qui optent pour le christianisme. Il y a les églises évangéliques qui sont assez actives en Algérie, mais il y a aussi des conversions dans les églises catholiques. C'est surtout en Algérie qu'il y a une église maintenant algérienne. Moi, il m'est arrivé de donner des conférences à Alger où il y a quand même un bon nombre de personnes qui sont issues de l'islam et qui sont chrétiens. Ces réunions ont lieu de manière très discrète. Et puis, dans des villes comme Marseille, il y a de plus en plus de mariages mixtes et de personnes qui peuvent opter pour les églises chrétiennes. Voilà. Maintenant, en même temps, vous savez, vous avez une recrudescence aussi de mouvements musulmans à forte connotation vestimentaire, etc. Donc cette tendance-là existe. Mais pour moi, c'est important de dire que les deux tendances existent maintenant. Est-ce que je serais capable de les chiffrer? Je ne sais pas.
D'autres questions? On a une question à vous. Oui, mais vas-y.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre communauté là? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que l'univers vous êtes?
Oui, alors, notre communauté à Marseille. Nous sommes une toute petite communauté, puisque c'est une communauté de quatre célibataires, Karim, Jean-Paul, Jean-Michel et moi-même. Un couple aussi on a maintenant trois appartements dans cette cité. Il y a un couple aussi qui collabore avec nous et qui habite sur place depuis plus de 5 ans. Et puis nous avons une soixantaine de bénévoles qui sont des gens qui n'habitent pas la cité, mais qui viennent surtout pour l'accompagnement scolaire. Qu'est-ce que nous faisons? Alors c'était la question de nos voisins quand on est arrivé. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Sous-entendu, le centre social fait ceci, l'association machin fait cela. Et nous, on leur répondait, nous, on fait rien. Alors les Marseillais, quand on leur dit ça, ils aiment assez, vous voyez. Il y a des Marseillais ici, il ne faut pas que je pousse le bouchon trop loin. Non, je veux dire par là que les Marseillais ont, comment dire, savent vivre. Ils prennent le temps. Et ils prennent le temps de jouer aux boules, de prendre le pastis, etc. Et donc, c'était pas ça qu'on voulait dire. C'est pas on fait rien au sens, on fait rien de la journée. Mais ce qu'on voulait leur dire, c'est que bon, nous, d'abord, on habite avec les gens, nous prions, et pour nos voisins musulmans, c'est un gage de sérieux. C'est pas pour ça qu'on prie, mais pour eux, c'est important. Et j'insiste souvent sur le fait que, une certaine génération peut nous assimiler à la mission ouvrière, mais nous, nous sommes dans un contexte très différent, très différent. C'est des quartiers populaires, mais c'est plus le même peuple, si j'ose dire. Le Parti communiste, il est à moins de 3%. Les gens ne sont pas athées, ils sont religieux, mais de l'ordre de l'évidence. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait se rencontrer deux mondes, notamment à travers l'accompagnement scolaire, pour que cette cité ne soit pas une cité, parce que nous, la cité Saint-Paul, c'est une petite traverse qui est conduite, donc c'est une souricière, et avant qu'on arrive, les seules personnes qui venaient à la cité, ben, c'est les gens qui y habitent, et puis leurs familles et leurs amis. Donc on voyait pas beaucoup de blondes aux yeux bleus, on voyait pas beaucoup non plus d'étudiantes africaines faisant des thèses de doctorat, et c'est important que nos voisins puissent voir que ben, les gens viennent dans la cité, comme ça, parce qu'ils aiment venir. Et donc, ce que ça produit à travers donc le fait, ce qui est très important, c'est que l'après-midi, toutes les après-midi, il y a toujours quelqu'un dans notre appartement qui sert à l'accueil. Donc, c'est comme un monastère où il y a une porterie, c'est-à-dire les gens peuvent venir, il y a toujours quelqu'un. Donc, les adultes viennent souvent pour des questions de papier administratif, etc. Il y a beaucoup de gens, en fait, avec qui on tisse des liens, qui sont des liens de voisinage, de fraternité, d'amitié, qui font que les gens parlent de ce qui constitue leur vie. Bon, moi, j'aime bien prendre toujours les anecdotes de la semaine. Si je regarde ma semaine, par exemple, mon voisin du dernier étage est venu me voir parce que lui et sa femme ont des problèmes de santé et qu'ils voudraient passer du dernier étage au rez-de-chaussée. Donc, ils savent que je peux les aider à faire une lettre dans ce sens. Et bonne nouvelle pour eux, je leur ai dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, moi je dîne avec Jean-Claude Gaudin le 4 décembre. J'ai toujours refusé, et là je me suis dit, il ne faut quand même pas le froisser, le maire de Marseille. Dîner privé, alors je vais régler ça directement avec le maire. Bon, en même temps on ne veut pas apparaître comme des notables, donc je lui dis, vous savez, moi je ne pas non plus, je ne peux pas faire des miracles, parce que sinon je serais là tout le temps à m'occuper des attributions de logement. Mais sans jouer un rôle de notable, on peut jouer un rôle de relais. Donc là, j'ai fait une lettre pour lui, et je me suis occupé d'appeler le cabinet du maire, et puis après, c'était un appartement, parce qu'il y a des appartements qui dépendent de la préfecture, il y en a d'autres qui dépendent de la mairie de secteur, d'autres de la mairie centrale, enfin, c'est toute une histoire. Alors pour la plupart des personnes, ils sont complètement démunis par rapport à tout ça, donc on sert de relais par rapport à ça. Et après, il m'a dit, mais Henri, viens prendre un café, ça fait longtemps. Donc je suis allé prendre le café avec lui. Et de quoi il m'a parlé, l'Arbi, il m'a parlé de son enfance en Tunisie, de la manière dont il vivait dans cette société traditionnelle, dont il a vraiment la nostalgie, la difficulté avec laquelle il avait de transmettre ça à ses enfants. Et puis après, il m'a parlé de des questions religieuses. Il m'a parlé de la manière dont lui se méfiait de certaines tendances ultra dans l'islam. Il m'a dit des choses très intéressantes sur les sages. Il me parle de là. C'est important qu'il y ait des sages dans le monde. Je lui dis, mais c'est très difficile d'être sage. Il me regarde et il me dit, mais non, c'est pas difficile d'être sage. On est sage ou on n'est pas sage. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, en fait, c'est des débats il y a aussi des rencontres qui sont des rencontres spirituelles. Donc, quand on me dit qu'est-ce qu'on fait, c'est sûr qu'on a un rayonnement social, enfin, notamment l'accompagnement scolaire, puisqu'on peut se retrouver jusqu'à 80 personnes chez nous, trois soirs dans la semaine. Donc, au bout de 12 ans, on touche beaucoup de monde. Et ça porte du fruit en termes de promotion sociale. Ça, on peut le constater. Avec beaucoup d'autres, puisqu'il y a l'école, il y a beaucoup d'autres intervenants. Mais moi, ce qui me fait plaisir, par exemple, c'est que, ça m'a été encore redit cette semaine, j'ai des personnes aussi qui viennent nous voir, qui sont extérieures au quartier, qui viennent aussi parce qu'on est un lieu spirituel. Par exemple, cette semaine, j'ai accueilli une Lyonnaise dont le prénom m'indiquait qu'elle venait d'un pays musulman, qui venait offrir des services dentaires moins cher pour ceux qui sont à la CMU, etc., sans dépassement. Enfin, je passe les questions techniques, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même plus se soigner les dents. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'elle m'a dit, bah, moi, c'est la première fois que je venais dans le quartier. Et quand j'ai demandé aux gens, bah, où est-ce que je peux trouver Henri et la Fraternité Saint-Paul, leur visage s'est éclairé. On dit, attendez, on va vous montrer. Ils étaient super contents. En fait, nos voisins, ils sont fiers que les gens viennent dans notre quartier. C'est-à-dire, on a retourné, et c'est grâce à eux, on a retourné, les gens viennent dans notre quartier, alors qu'avant, on fuyait notre quartier. Donc, pour moi, essentiellement, c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire se faire rencontrer des univers et que les gens se voient comme des gens aimés. Voilà. Pour moi, c'est ça le plus important. Alors, concrètement, ça passe par l'accompagnement scolaire 3 soirs par semaine, le fait qu'il y a toujours quelqu'un l'après-midi à la fraternité. Et puis il y a des gens qui viennent spécifiquement pour prier avec nous, surtout le soir, à 6 heures du matin, ils sont plus rares. Mais nous apprécions cette solitude monastique dans la vie.
Est-ce que vous priez avec des musulmans ?
Alors, il peut arriver que nous prions avec les musulmans, mais c'est pas très fréquent en fait. Nos relations sont plutôt des relations. Dans la vie quotidienne, mais il est souvent arrivé qu'on nous appelle pour prier, par exemple dans les familles mixtes, quand il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelques musulmans, on a aussi une amie, il y a une forte proportion aussi, la communauté juive à Marseille est importante, il y a à peu près 80 000 juifs, et dans notre quartier il y a pas mal de juifs, et on a par exemple une amie juive qui nous aide à l'accompagnement scolaire et qui reste parfois pour les offices prier avec nous. On a beaucoup d'enfants musulmans qui voudraient participer à la prière, mais on leur dit toujours, mais écoutez, demandez à vos parents. Et généralement, les parents n'y tiennent pas forcément. Donc il y a une grande curiosité, en tout cas. Et puis parfois aussi, il y a des conseils, par contre, pour la prière. C'est-à-dire, je me suis trouvé une fois face à un jeune voisin qui me dit, musulman, qui me dit comment on prie. Donc, comme je connais, ça dépend des familles, oui, là-dessus. Donc, ça, c'est une famille avec qui on est très amis. Et je lui dis, ben voilà, dans la tradition chrétienne, voilà ce sur quoi on va insister dans la prière. Dans la tradition musulmane, voilà ce sur quoi on va insister. Et puis, j'ai essayé de lui montrer aussi la dimension la plus profonde de la prière et en quoi on pouvait peut-être se rejoindre. Voilà. C'est un point délicat. Je pense qu'il faut être très respectueux aussi des identités des uns et des autres et faire d'abord une expérience de notre commune humanité et pas s'imaginer qu'on a des prières en concurrence. Quoi. Donc s'il y a un musulman qui nous dit « voilà, j'aimerais prier », c'est arrivé, hein, et qui veut prier avec nous, il n'y a aucun problème. Voilà. Après, faut-il trouver des mots communs pour la prière ? Par exemple, nous prions dans la tradition monastique occidentale, en fait. Nous commençons toujours par une hymne, après nous avons les psaumes, après une lecture qui est une lecture biblique, après des intercessions, le Notre Père. Qu'est-ce qu'on fait si par exemple on a un ami musulman qui vient avec nous ? Bon, bah, si c'est un ami musulman qui nous dit « mais faites votre prière habituelle », on fait notre prière habituelle puisqu'il en est d'accord. Et parfois on peut se retrouver à table et faire une prière avant le repas par exemple dans laquelle on va trouver des mots qui nous sont communs, ça arrive assez fréquemment, voilà, mais nous sommes tâtonnants en la matière. Est-ce que nous avons des relations avec les imams? Alors là aussi nous cherchons vraiment à être d'abord des voisins, donc autant nous ne nous cachons absolument pas d'être chrétiens, dans notre appartement il y a des icônes partout, et il y a des croix d'ailleurs dans toutes les pièces, donc ce qui au début pouvait poser problème, donc nous ne nous cachons pas du tout d'être chrétiens, et par contre nous ne nous présentons pas comme responsables religieux, c'est-à-dire nous voulons revenir à une vie monastique laïque. Ce qui était la vie monastique au départ, c'est un mouvement laïque. Alors l'un d'entre nous est prêtre, Jean-Paul, il est aumônier, donc il n'est pas responsable, par exemple, enfin en tout cas à ce jour, de la paroisse, de notre paroisse. Donc on n'est pas responsable en titre de la communauté chrétienne locale. Donc pour nous, il est important que nous privilégions les relations de voisinage. Alors si un jour il y a un responsable religieux musulman qui s'adresse à nous comme voisins, mais bien sûr il est le bienvenu. Donc à ce titre, nous avons des relations, par exemple, je pense à une mère de famille qui s'occupe de ce que les Comoriens appellent le shioni, c'est-à-dire en fait le catéchisme, si vous voulez, pour les jeunes femmes. Elle a mis ses enfants chez nous pour l'accompagnement scolaire, donc c'est à ce titre que nous avons des liens, mais ce n'est pas forcément des liens religieux, mais on a été invité par exemple à des mariages religieux, et donc on peut être accueilli de manière particulière par les responsables religieux à cette occasion. Parce qu'en fait, je crois qu'il faut, multiplier les types de contacts. On peut être un colloque interreligieux, voilà, ça va être des intellectuels musulmans et chrétiens qui vont se retrouver, des théologiens. On peut, comme par exemple dans Marseille-Espérance, se retrouver des responsables religieux qui sont responsables de leur communauté parce que c'est important qu'ils se connaissent, etc. Et nous, nous sommes vraiment sur le terrain de Monsieur Tout-le-Monde, sachant que les musulmans en France ont réussi l'exploit, ils sont aussi peu pratiquants que les catholiques français, ce qui n'est pas facile. ils vont peu à la mosquée le vendredi. Voilà. Ils feront peut-être le ramadan, parce que c'est important, mais voilà, tous les musulmans... Si vous regardez les sondages en France, et ça correspond exactement à la réalité de notre quartier, les musulmans, si on les interroge sur leur identité, qu'est-ce qui vous définit le plus ? Être homme-femme, avoir telle ou telle rémunération, habiter tel ou tel endroit, votre nationalité, etc. Le critère qu'ils mettront le plus en avant, c'est le critère religieux, être musulman. Donc c'est très fort pour eux, pour leur identité, je dirais, culturelle. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont très pratiquants. Et donc, aller directement à l'imam, c'est pas forcément rejoindre la plupart des musulmans. Car la plupart des musulmans n'ont pas de lien avec un imam. Faut jamais l'oublier. Voilà. Donc, ça c'est notre approche, mais c'est pas du tout un jugement sur d'autres approches. Mais donc, nos relations avec les imams sont plutôt rares. C'est-à-dire, nous, on a surtout contact avec des familles qui, d'ailleurs, ne se définissent pas forcément de manière extrêmement musulmane. Et moi, je fais très attention. Au début, même l'origine de mes voisins, je leur posais des questions. J'avais affaire à un petit voisin qui, visiblement, était comorien. Je connais tellement bien les comoriens que je peux tout de suite vous dire si quelqu'un est comorien. Et donc je lui dis, alors d'où viens-tu, Ahmed ? Et il me regarde, tout étonné, de Marseille. Moi je m'attendais à ce qu'il me parle d'Anjouan, des Comores. Non, de Marseille. Donc il ne faut pas enfermer les gens non plus dans des étiquettes qu'eux-mêmes ne choisissent peut-être pas comme prioritaires. C'est très compliqué, voilà. Il faut toujours savoir qu'un musulman, c'est aussi un homme, une femme, c'est peut-être un musicien, c'est peut-être un artiste, peut-être quelqu'un qui a du travail, quelqu'un qui n'en a pas. Et peut-être que lui accorde peu d'importance à cette dimension. Donc il faut accueillir la personne qui, entre autres choses, est plus ou moins musulmane. Voilà. Donc pas de priorité aux responsables religieux, aux imams, mais pas du tout non plus de fermeture à leur égard.
Pourquoi votre spiritualité et votre vie étaient différentes des fraternités des frères Jésus, des frères évangiles de Charles de Foucault ? Parce que dans ce que vous écrivez...
Vous voyez pas la différence. Non, mais nous, on n'a aucune revendication d'originalité. Ceci dit, il y a quelques points différents, certainement, par rapport aux petits frères de Jésus. Les petits frères de Jésus insistaient sur le fait que... c'est une certaine époque, une insertion par le travail au cœur des masses, mais par le travail, donc un travail qui vous à plein temps. Voilà. Donc par exemple, je connais beaucoup de petits frères de Jésus qui sont dans le BTP, etc. Et un travail modeste, enfin ouvrier, etc. Nous avons opté pour le travail à mi-temps, on n'a pas de définition précise du travail et on ne vise pas d'abord une insertion avec nos voisins par le travail, mais plutôt par le lieu où nous habitons. Voilà. Et donc, par contre, on privilégie le fait qu'il faut toujours l'après-midi quelqu'un dans l'appartement. Voilà. Et donc, en fait, on a beaucoup de relations aussi avec les jeunes, et dans une dimension éducative. Alors, les petits frères de l'Évangile sont plus apostoliques. Et nous ne sommes pas spécifiquement apostoliques. Bon, moi, depuis 3 ans, puisqu'on me l'a demandé, j'accepte de me déplacer pour faire des témoignages ou des conférences. Mais Jean-Paul est prêtre. En même temps, il a un rôle d'aumônier, surtout auprès des jeunes. Mais Jean-Michel, il fait de la mosaïque. Karim est professeur de lettres classiques dans un collège, le collège le plus pauvre de Marseille. Donc ça, c'est une petite note différente. Et puis alors, nous avons une prière liturgique assez prononcée. Les petits frères de Jésus étaient plutôt dans une approche d'adoration silencieuse, même s'il y a beaucoup de communautés qui ont une liturgie. C'est vrai que nous, on a une liturgie monastique assez soignée. Donc, c'est des différences d'approche. Alors, nous, c'est très important le quartier, c'est-à-dire nous voulons être très présents au quartier. Donc, c'est très limité. Et notre vie professionnelle elle est importante, mais elle est subordonnée à une présence au quartier. Voilà. Donc, ça, c'est très fort chez nous. Y a-t-il encore quelque chose à espérer des traders ? J'aurais plein de choses à dire, mais je risque d'être un petit peu technique. Mais je pense que, bon, par exemple, moi je travaillais sur le marché d'échange. Tant que nous aurons des devises différentes et qu'il n'existera pas une seule devise à l'échelle internationale, vous aurez toujours des échanges de devises parce que si vous partez faire un voyage aux États-Unis, il faudra que vous achetiez des dollars. Et de la même manière, quand on vend un Airbus aux Américains, ils vont nous régler en dollars. On va s'adresser aux opérateurs sur les marchés pour convertir ces dollars en euros. Voilà. Donc ça, c'est une première réponse. Et à partir du moment où vous avez des marchés qui sont des marchés volatiles, vous pouvez faire du trading. Et c'est sûr que si le marché d'échange, en moyenne, vous fait des variations d'un certain nombre de pourcentages et que votre banque est suffisamment large pour prendre un risque d'une baisse du cours jusqu'à ce qu'il remonte, ben vous prendrez des positions et vous ferez de l'argent là-dessus, sachant que quand une fois tous les 10 ans ou 20 ans, il y a une plongée et que le contribuable est là pour vous sauver, il n'y a aucune raison de changer ses habitudes. Sachant en plus qu'on touche des bonus quand on gagne de l'argent, mais jamais de malus quand on en perd, je crois que le salut des traders serait dans une réflexion sur pourquoi est-ce que les banques gagnent de l'argent. Moi, j'augmenterai les fonds propres des banques, je limiterai les concentrations des banques et j'appliquerai une fiscalité à la Roosevelt, c'est-à-dire ne pas hésiter à monter jusqu'à 90% sur les plus riches, mais par contre une fiscalité qui serait allégée sur les plus pauvres, puisque en France, quand vous vous mettez à travailler, vous perdez du pouvoir d'achat par rapport à certaines personnes qui ne travaillent pas ou qui travaillent au noir. Il y a un big problème. Donc pour moi, la réforme fiscale, c'est certainement quelque chose qui permettrait aux traders de se lever le matin et de se coucher le soir en se regardant dans la glace de manière un peu plus paisible. Voilà.
Et à partir de ce que vous avez vécu, vous ne pouvez pas avoir une influence sur les grands
du... J'ai une influence sur les grands de ce monde. Mais la question de madame est tout à fait juste parce que je pense que nous, je le dis très humblement, mais oui, mais je pense que la vertu de l'exemple et le fait de dire bah, écoutez, moi ça m'intéresse pas de gagner des millions, ça fait réfléchir les gens. Et je peux vous dire que dans ces milieux financiers, je connais des gens qui se posent sérieusement la question des réformes, et justement il y a des traders qui se posent des questions, j'en connais, et je pense qu'il y a aussi des responsables économiques qui se posent des questions par rapport à ça. Je connais des présidents aussi du CAC 40 qui, quand on leur a proposé leur parachute doré, l'ont refusé, voilà, parce que comme chrétiens ils considéraient que ça n'était pas juste, qui ont accepté des rémunérations inférieures et qui, je peux vous le dire, c'est leur propre témoignage, allez voir des investisseurs américains. Et les investisseurs américains souvent demandent au patron en disant « Vous gagnez combien ?» Il leur donnait son salaire, les gars se regardaient entre eux, ils disaient « Il y a un problème là, ça ne doit pas être une bonne entreprise, il est tellement mal payé. » Ça pose plein de problèmes, mais c'est en changeant les mentalités que nous changerons les comportements, les règles, etc. Donc moi je crois qu'à un moment donné, oui il y a du boulot, mais on est là pour ça, c'est ça qui est intéressant.
Mais... Il existe bien quelques traders chrétiens.
Il existe des traders chrétiens, oui. Il en faudrait plus, sans doute. Ça changerait les cours de bourse.
C'est l'incitation au placement solidaire.
Incitation au placement solidaire, c'est bien. Tout ce qui met en avant des valeurs autres. Alors, il y a des gens qui vont toujours utiliser ça pour continuer leur business. Ils vont s'arranger pour être investissement solidaire, etc. Bien sûr, il y a toujours des choses comme ça. Mais tous ceux qui mettent la pression sur des questions éthiques, forcément oblige les compétiteurs à se situer. Si personne ne dit rien, les gens continuent. Mais aux États-Unis, j'ai connu l'époque où mon père travaillait pour Bankers Trust, une banque américaine. Il était hors de question que les salariés aient la peau un peu foncée. Je vous assure, ils ont eu une note un jour, ça doit être dans les années 60, expliquant qu'ils avaient embauché une secrétaire des Caraïbes, sous-entendu noire, et qu'il fallait être bien gentil avec elle. Voilà. Mon père a connu cette époque-là. Il faut changer les mentalités. Oui, c'est complètement ridicule de faire une discrimination sur la base de votre couleur de peau. C'est ridicule. Mais c'est encore plus scandaleux, oui, de... Enfin, je trouve, moi, que les banques se portent très bien aujourd'hui, alors qu'il y a un an, on nous demandait de payer les pots cassés, et que les gens qui nous ont conduits là, pour la plupart, n'ont pas été sanctionnés. Et ça, il faut faire pression sur l'opinion publique. Moi, j'y crois énormément, et notamment par l'exemple. Mais je vous assure, il y a des gens qui achètent mon bouquin, qui laissent traîner ça sur la table pour que leurs enfants ou petits-enfants jettent un coup d'œil. Et l'autre jour, j'ai un lecteur ou une lectrice qui m'a dit, mon fils ou ma petite-fille, je ne me rappelle plus, mais après avoir lu quelques pages de votre livre, m'a dit, mais je ne savais pas que des gens comme ça existaient encore aujourd'hui. Et moi, quand j'entends ça, je me dis que j'ai une responsabilité, nous avons une responsabilité pour dire qu'il n'y a pas que des gens qui vendent des armes, il n'y a pas que des gens qui pensent qu'à leur nombril. Moi, je ne suis qu'un pauvre type. Mais je me dois, c'est écrit dans l'Évangile, hein, vous devez témoigner aussi des œuvres de Dieu, parce que moi, tout ce que je fais, c'est bon Dieu, c'est pas moi. On doit témoigner de ce monde-là parce qu'il y a des jeunes qui ne savent même pas qu'il existe. Ils ne savent pas qu'il existe. Donc ils sont là à se dire le monde est horrible et ils finissent à s'envoyer une balle dans la tête. Hein, donc c'est important. Déformater le disque dur, le défragmenter. Et...
Voilà. Le temps passe et on ne le voit pas passer. Mais on va devoir peut-être s'arrêter maintenant. Voilà. Nous remercions beaucoup Henri Quinson. Comme il nous y a invités tout à l'heure, on peut laisser traîner un de ses livres sur la table et il y a la brochure qui est...